On reprend pour accueillir aujourd'hui Alexandre de Vitry, que certains d'entre vous connaissent bien, puisqu'il était mon assistant dans les deux dernières années au Collège de France, et qu'il a, au cours de ces deux années, achevé une thèse de doctorat importante sur Peggy, thèse qui a été publiée l'année dernière, aussitôt publiée, aux Belles Lettres. Alors, il est l'auteur d'autres ouvrages. Il avait écrit un premier livre sur Philippe Muret, et il est l'auteur d'une anthologie des textes de Peggy qui a été publiée dans la collection Bouquins l'an dernier, pour laquelle j'ai fait une préface, et puis il m'a aussi aidé, nous avons collaboré pour faire un volume dont le titre m'échappe, mais qui doit s'appeler « Écrire l'amour » ou quelque chose comme ça.
Aimer l'amour, l'écrire.
Comment ?
Aimer l'amour, l'écrire, avec une virgule.
Aimer l'amour, l'écrire, hein, ouvrage qui est consacré à un certain nombre de manuscrits d'amour de la Bibliothèque nationale et qui a été publié à l'automne dernier chez l'Iconoclaste. Donc nous avons beaucoup travaillé ensemble et je suis heureux qu'il revienne au Collège de France aujourd'hui, alors que maintenant il enseigne dans le secondaire cette année, et pour parler de son auteur de prédilection, hein, Peggy, à qui il a consacré donc sa thèse et cette anthologie, et Peggy qui est évidemment, disons, à la fin de la période à laquelle je m'intéresse, Peggy qui est un personnage important pour parler du sport littéraire ou de la guerre littéraire. Je crois que je l'ai un petit peu évoqué à propos de la notion de personnalité, puisqu'il est l'un des derniers à utiliser le terme de personnalité comme un homme du XIXe siècle, non pas pour désigner une célébrité, mais pour parler d'une satire personnelle. Et ça nous montre bien comment la langue de Peggy, c'est encore celle du XIXe siècle. Lorsque Proust emploie le mot personnalité, c'est une personnalité mondaine. Il n'y a jamais, jamais chez Proust la moindre allusion à cette dimension de la personnalité comme un écrit ou un discours satirique, alors que Peggy joue sur le sens de ce mot. Et ça nous... C'est à mon sens quelque chose qui montre bien ce rapport de Peggy avec le XIXe siècle qu'on avait déjà pu rencontrer avec la chiffonnerie l'an dernier. Alors, votre titre est « Charles Peggy dans les cordes, de la polémique comme sport ». À vous.
Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je commencerai en citant un peu George Steiner, qui avait rendu compte de la publication du troisième volume des œuvres en prose de Peggy dans la Pléiade dans les années 1990. Alors je cite Steiner. Comme Ajax, il avait fait de sa vie un duel, un corps à corps, contre le compromis, contre les reflets huileux du discours politique, de la manipulation financière, contre la facilité dans les relations publiques et privées, contra mundum, jusqu'au dérangement apparent et à l'autodestruction. À la fin, il n'y avait guère un allié, un partisan, un admirateur avec qui Peggy n'eût rompu et qu'il n'eût consigné dans les limbes du déshonneur mondain. Comme Socrate, autre perturbateur, Ajax et Peggy restaient des fantassins dans l'âme avec un sentiment exact du terrain âpre qu'ils avaient sous les pieds et du poids des armes sur leur dos. » Fin de citation. Donc le portrait que nous donne Steiner de Peggy nous montre un Peggy duelliste, fantassin, un Peggy qui lutte contre toutes les forces qu'on voudra bien lui opposer, et même ici un Peggy grimé en héros grec à la façon d'Ajax, mais un héros inquiétant, un héros assez sombre, puisque son combat sans limite confine à l'autodestruction, dit Steiner. Peggy, c'est en effet à bien des égards le polémiste par excellence, hein, capable de multiplier les cibles à l'infini, mais cette puissance combative comporte une forme d'hubris, Une folie peut-être, puisqu'au bout du compte, c'est le combattant lui-même qui risque de périr sous ses propres assauts. C'est là aussi que joue l'analogie que fait Steiner avec Ajax. Ajax n'est pas seulement un héros puissant et plus ou moins invincible, il se distingue également par sa mort, puisque Ajax, après avoir, sous l'effet de la colère, massacré un troupeau de moutons en croyant tuer des hommes, eh bien Ajax se jette de honte sur son épée et périt par l'arme même qui a fait de lui un héros. Le risque de l'écrivain en guerre, le risque du polémiste, ce n'est pas seulement celui d'aller trop loin, de ne plus mesurer sa force, c'est aussi celui de sa propre destruction, comme sur cette image d'Ajax qu'on peut voir au British Museum. Donc Peggy sait qu'il est un tel polémiste, et à bien des égards, ce polémiste par excellence, me semble-t-il. Même lorsqu'il se cherche à s'en défendre, même dans ses dénégations, en fait, il vient confirmer qu'il se voit tel. Par exemple, dans ce texte de 1911 dont je reparlerai, qui s'appelle « Un nouveau théologien », M. Fernand Laudet, où il écrit « Je ne suis aucunement haineux, point, je suis peut-être haïssant ». Donc vous voyez avec cette variation sur le verbe « haïr », qui lui permet de nuancer tout en s'affirmant encore du côté de la polémique. Alors ce rapport de Peggy au combat, à la polémique, à l'écriture combative, il naît bien sûr de l'affaire Dreyfus, de cette affaire Dreyfus qui fut si déterminante pour Peggy, et qu'il évoque souvent comme un moment non seulement de combat collectif, de fraternité d'armes, mais aussi un moment où il a su, peut-être plus qu'aucun autre, briser les amitiés qui devaient l'être. Donc combattre à la fois ses adversaires d'envergure, disons les grands anti-Dreyfusards, les Barrès et autres, Barrès qu'il traitait à l'époque de Tartuffe moisi avant de se rapprocher de lui une dizaine d'années plus tard. Donc non seulement ses ennemis d'envergure, disons, mais aussi les amitiés intimes, les amitiés d'enfance qu'il a su briser au nom de l'affaire Dreyfus. Donc on a d'un côté une sorte de sociabilité de combat, cette fraternité, confraternité d'armes, mais aussi cette capacité à la violence sociale. Peggy lui-même se juge particulièrement doué en la matière, grâce, dit-il, à une facilité douloureuse au retranchement, à la solitude, à l'exil intérieur. Alors ce rapport à la polémique qui naît dans l'affaire Dreyfus est comme confirmé et même renforcé dans le geste de fondation des Cahiers de la Quinzaine, la revue que Peggy dirigera jusqu'à sa mort, revue fondée début 1900. Cette fondation, elle est liée à un double geste polémique. Le premier, c'est que Peggy en fait réagit à une motion autoritaire du Congrès socialiste de fin 1899, motion qui, dans la marche du parti vers l'unité, vise à réduire les discordances possibles dans les différents organes de presse socialistes, et donc à réduire, somme toute, la liberté de la presse à l'intérieur du mouvement. Ça, pour Peggy, c'est inadmissible, et c'est contre cette motion autoritaire qu'il décide de fonder en franc-tireur les Cahiers de la Quinzaine. Donc premier geste polémique. Deuxième geste polémique, c'est que Peggy dirigeait depuis 2 ans une librairie, la librairie Georges Bellay, librairie socialiste et Dreyfusarde, et qu'il se fait renvoyer de son poste de gérant de la librairie par un conseil d'administration dont je reparlerai, parmi lesquels siégeaient en particulier Lucien R. et Léon Blum. Lucien R. alors un des meneurs du camp Dreyfusard. Et que c'est à la suite de ce renvoi que Peggy fonde les Cahiers de la Quinzaine contre ses anciens amis, donc contre l'unité en progression du socialisme, contre aussi ses anciens amis plus proches. Alors, les Cahiers de la Quinzaine se présentent comme une œuvre de renseignement qui compile diverses informations sur la politique de l'époque, donc où on pourrait attendre une certaine objectivité, un certain calme, mais en fait, immédiatement, on reproche à Peggy, et lui-même répond à ses reproches, d'avoir fondé une revue, dit-il, de polémique très personnelle. Et ce mot « personnel », Antoine Compagnon en a dit un mot, et j'en reparlerai tout à l'heure. Donc cette revue, elle est une revue de polémique, à vrai dire. Elle est une revue fondée dans le sillage de l'affaire Dreyfus et qui cherche en quelque sorte à prolonger l'affaire Dreyfus au-delà d'elle-même, à travers toutes sortes d'affaires. Alors, vous voyez ici, par exemple, ces différentes couvertures ou pages de garde des Cahiers de la Quinzaine. À chaque fois, on revoit l'affaire Dreyfus en haut comme une sorte de rubrique, en fait. C'est un cahier, un nouveau cahier sur l'affaire Dreyfus. Il y a une sorte de feuilleton de l'affaire Dreyfus dans les cahiers de la quinzaine, ces cahiers collectifs qui à la fois reproduisent des textes de débats parlementaires, des textes polémiques de Péguy ou d'autres collaborateurs, et prolongent l'affaire Dreyfus au-delà d'elle-même en quelque sorte. Mais cette affaire, elle essaime un peu partout, puisque les cahiers vont d'affaire en affaire, à vrai dire. J'ai reproduit ici différentes... Alors, on a un peu toutes sortes de choses, des couvertures ici de cahiers de la quinzaine, ici des articles à l'intérieur de cahiers, qui sont, vous le remarquez peut-être, si la qualité de l'image le permet, toujours des affaires. Affaire Liebknecht, en haut à gauche, par exemple, qui est une sorte de sous-affaire dans l'affaire Dreyfus. L'affaire Hervé, autour de Gustave Hervé, un socialiste antimilitariste. L'affaire Terry, dispute de journaliste entre Péguy et un confrère, qui se poursuit dans le numéro suivant, etc., etc., avec aussi des affaires fictionnelles, fictives. L'affaire Crankby d'Anatole France, par exemple. L'affaire, c'est le nom de l'affaire Dreyfus, bien sûr, mais du coup de toutes les polémiques qui vont jalonner le parcours des cahiers de la quinzaine. Ces affaires qui, toujours, divisent. C'est le propre de l'affaire de créer deux camps. Péguy, qui vient même plaisamment à parler de l'affaire Jésus, celle qui toujours divisera l'humanité. L'affaire de la fin de sa vie, disons. Et on pourrait voir, somme toute, cette histoire de ce fil des cahiers de la quinzaine comme une sorte d'affaire Péguy qui dure une quinzaine d'années. Je passe sur cette diapositive pour vous montrer simplement que le Gustave Terry, donc, qui donnait lieu à un dossier qui s'appelait l'affaire Terry, dans le numéro suivant, la rubrique, cette fois, c'est en haut encore, vous voyez, polémiques et dossiers. Le mot polémique permute facilement avec celui d'affaires. On pourrait lui ajouter celui de controverse encore. Il y a ici tout un réseau de synonymies. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les cibles que Péguy a successivement visées et attaquées. Ça nous prendrait quelques heures. J'en retiendrai quelques-unes essentielles et un trait particulier qui est que lorsque aucune cible ne se présente spontanément devant Péguy, c'est Péguy en invente ou en créera. Il a besoin en quelque sorte de ce carburant pour son écriture. Alors on trouve quelques cibles ponctuelles, des cibles occasionnelles, et puis il y a les cibles obsessionnelles, dirais-je. Les deux principales sans doute sont Jean Jaurès d'une part et Lucien R d'autre part, c'est-à-dire ces deux principaux maîtres en socialisme. Deux grandes amitiés pour Péguy, amitié déçue, amour déçu, de jeunes socialistes désabusés. Bon, à cela, on pourrait ajouter, je me permets cette énumération très rapide, les nationalistes, les anti-Dreyfusards, les jésuites, le Parti catholique, les réactionnaires, Jules Guesde, Émile Combes, les radicaux, les socialistes, des écrivains comme Mirbeau, les universités populaires, le Parlement, les anticléricaux, après 1905, les pacifistes, les syndicalistes révolutionnaires, les historiens, les sociologues, la Sorbonne, les docteurs, les savants, Taine et Renan, leurs disciples, les socialistes, les radicaux encore, et une fois convertis, à qui s'en prend Péguy ? Eh bien, aux catholiques, aux prêtres, aux moines, aux riches, aux antisémites toujours, mais aussi aux Dreyfusards profiteurs, et en fait à presque tous les Dreyfusards sauf lui. Puis la Sorbonne encore, à Lançon, à Langlois, Lavis, Seignobos, mais aussi à ses amis, à ses collaborateurs, outre Lucien R, outre Jean Jaurès, Péguy s'en prendra à Romain Rolland, à André Spire, à Daniel Alévy surtout, dont je reparlerai tout à l'heure, à Jean Sorel, à Jacques Maritain, à Ernest Psychari. Au bout du compte, la plupart des amis de Péguy seront passés à un moment ou à un autre, de l'autre côté du viseur, en quelque sorte. Donc Péguy est un défenseur du genre de la personnalité dont vous avez parlé, de l'attaque ad hominem, mais on voit bien que cette personnalité chez Péguy, elle s'élargit au monde entier. La polémique de Péguy, c'est Péguy contre tout le monde, en tout cas contre ce que lui appelle le monde moderne. Alors Péguy n'est certes pas que cela. Il est aussi un poète, un auteur dramatique, mais son autre veine, qui l'entraînera du côté de la prière, de la contemplation, après sa conversion, eh bien, cette autre veine ne remplace jamais vraiment la première. Jusqu'au bout, jusqu'à sa mort en 1914, il est resté pamphlétaire, comme irrésistiblement. Ainsi, encore dans Un nouveau théologien, voici ce qu'il écrit en 1911, « Tout ce que je demande, c'est que tout ce fiel crève sur ses fielleux et que bientôt je puisse retravailler d'un cœur pur. » Vous voyez, en fait, les cinq dernières années de sa vie fonctionnent un peu sur le mode de cette alternance entre deux œuvres, entre deux types d'œuvres. l'une du côté de la poésie et du théâtre, l'autre du côté du pamphlet, avec une espèce de gradation qui culmine, à mon avis, dans L'Argent Suite, un texte de 1913. Mais en même temps, même dans Ève, autre grand texte de 1913 de Peggy, qui est une sorte de grande épopée de l'humanité en alexandrin, qui ne se présente pas du tout comme un texte pamphlétaire, eh bien même dans Ève, on trouvera au milieu du livre une longue diatribe contre le monde moderne. Peggy est incorrigible. Alors, puisqu'il est question dans ce cours des représentations de l'écrivain en duelliste, en soldat, en polémiste, je reviens à la première illustration que j'ai projetée. Il s'agit d'une caricature de Peggy, vous l'aurez reconnue, une caricature par David Levine, un caricaturiste américain habitué à représenter les écrivains, caricature qui avait été publiée dans la New York Review of Books en 1966. Alors, on y retrouve une plume de fer, ici, hein, il me semble montée sur un porte-plume, on est au XXe siècle, ici. Seulement, ici, elle sert plutôt de canne que d'épée. D'ailleurs, ce dessin avait été commenté par un spécialiste de Peggy, Roger Dadoun, qui s'était énervé de cette posture appuyée, claudiquante, en quelque sorte, d'un Peggy boiteux. Roger Dadoun, qui préférait ce dessin de Peggy, d'Egon Schiele, pour la revue berlinoise Die Aktion, en 1914. Un dessin plus subtil, plus complexe, plus tourmenté, peut-être. Alors, je ne tranche pas entre les deux, mais je vous invite à constater que ces deux dessins s'inspirent chacun de représentations antérieures de Peggy, que vous voyez ici. Alors, pour le dessin, la première, donc ici, photographie de Peggy, dans la boutique des Cahiers de la Quinzaine, vers 1910, et vous voyez qu'effectivement, Levine, tout en reprenant certains éléments de la photographie, a penché Peggy vers l'avant. Et puis ici, un tableau assez célèbre de Peggy, de Jean-Pierre Laurence, dont on voit bien que Schiele a repris le visage. Alors pourquoi je vous montre ces deux images? Parce qu'il me semble que ni l'une ni l'autre ne nous montre vraiment un Peggy polémiste. On voit plutôt un Peggy avec un côté ecclésiastique presque, et à gauche, en tout cas, faisant également penser à ces hussards noirs de la République, selon l'expression qu'il a consacrée, ces instituteurs de la Troisième République. En tout cas, un Peggy assez rigide, assez calme, hein, se tenant bien, en quelque sorte. Alors, il me semble que ces représentations sont un peu mensongères. En tout cas, elles ne donnent pas à voir l'espèce de polémiste un peu furieux et sans limite que j'ai commencé à décrire. Donc je voudrais montrer comment ces images mentent. Alors je vais, outre ce que j'ai déjà dit, je vais développer mon propos en deux moments, un premier un peu étendu et le deuxième beaucoup plus rapide, d'abord en passant en revue quelques images de Peggy polémiste, des images qui en fait communiquent un peu les unes avec les autres, c'est-à-dire Peggy en sportif, Peggy en duelliste et puis Peggy en militaire. Et puis, je parlerai un peu, si j'en ai le temps, mais je passerai sans doute vite, sur la méta-polémique de Peggy, sur sa théorie de la polémique, qui elle-même est une polémique. Donc commençons par la notion qui donne au cours d'Antoine Compagnon son titre, celle de sport. Peggy, en effet, à bien des égards, a les traits d'un écrivain sportif. Or, c'est un topos d'époque, hein, autour de 1900, que ces écrivains sportifs. C'est l'époque d'Arthur Cravan, écrivain boxeur. C'est aussi, ici vous voyez dans le journal illustré Excelsior, l'époque de tel banquet de boxeurs en l'honneur de Tristan Bernard, hein, où le journaliste se félicite de ce qu'il appelle un accord sportif littéraire. Alors Peggy est parfois représenté en boxeur, par exemple par les frères Tarot, qui dans leur livre à son sujet écrivent qu'il rédige son Porche du mystère de la deuxième vertu en 1911, dans cette atmosphère. Alors, comme un boxeur s'entraîne, il écrivit ces deux autres mystères qui ne forment qu'un même poème d'entraînement mystique à l'espoir. Donc ici, chez les tarots, il y a un jeu de mots double sur le mot entraînement sportif, et puis en même temps entraînement comme une élévation mystique, un jeu de mots qui permet de rejoindre le vieux thème médiéval de l'athlète spirituel. Mais ici, ce n'est pas le Peggy polémiste qui est décrit en boxeur, donc je le mets de côté. Alors on pourrait aller chercher Peggy du côté de l'escrime, et lui-même aime louer la finesse de l'âme ou l'acuité de pointe de l'esprit français. mais il refuse de poser en escrimeur. Regardez cet extrait de Victor-Marie Contugo, que je vais lire par bribes. C'est un texte où Peggy, justement, évoque son amitié avec Daniel Halévy et distingue l'ascendance bourgeoise d'Halévy de sa propre ascendance plus paysanne, dit-il. Donc je cite « Par exemple, je vois bien que je n'apprendrai jamais l'escrime. Je ne saurai jamais, je n'aurai jamais cette pointe aristocratique et bourgeoise, ce point, cette pointe uniponctuée. Bon, » Je passe un peu. « Ces demandes et ces réponses si précipitées, si battantes, si instantanées, si déliées, si fines, cette conversation. Je sais très bien la baïonnette, au contraire, parce qu'elle est triangulaire, quadrangulaire. C'est un tiers point d'acier tout neuf, tout étincelant, parce qu'elle est au bout d'un fusil. Ça, c'est une arme. » Et je me serais si bien battu avec des armes du XVe siècle. Ces armes étaient des outils, en effet, à peine dissimulés, à peine déguisés, à peine adaptés. C'étaient des outils d'ouvriers et même de paysans. Des bêches, des pelles, des pioches, des piques et des piques, des haches et des crocs. Au bout d'un bâton, ça faisait la hallebarde, etc., etc. Donc l'escrime, à lire Peggy, est une affaire de bourgeois, de nobles, et ça ne correspond pas à l'éthos qu'il veut construire, éthos de paysan, enraciné dans une énumération bien typique de son style, qui confine ici au comique, comme souvent chez lui. En fait, le Peggy sportif s'épanouit plutôt dans la marche en particulier qu'il associe aux manœuvres militaires qui lui sont chères en tant qu'officier de réserve, ou encore du côté des sports collectifs, qui eux aussi sont en train de se développer à l'époque, comme la boxe. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que cette époque, c'est celle de Pierre de Coubertin et de l'Olympisme également. Dans le même journal que celui dont j'ai montré une coupure tout à l'heure évoquant Tristan Bernard, donc dans cet Excelsior illustré, on trouve un an plus tard, en 1914, Peggy cette fois-ci, dans un entrefilet intitulé « Littérature et football rugby ». Alors, il est question d'une équipe d'écrivains, et je cite donc ce petit article, si vous pouvez le voir de là où vous êtes. Nous avons parlé de cette très littéraire équipe de rugby qui compte parmi ses membres Jean Giraudoux, Alain Fournier, Mac Orlan, Louis Su, etc., et dont le président d'honneur n'est autre que Charles Peggy. Donc vous voyez encore la vignette ici inspirée du portrait que j'ai projeté tout à l'heure. Le 15 se multiplie, l'équipe va devenir une société dûment organisée, la jeunesse sportive et littéraire. On y acceptera les sportsmen, débutants ou vétérans, littérateurs ou artistes, que le noble jeu passionne. Alors le noble jeu, ici, c'est le rugby, mais nous allons croiser cette expression utilisée de maintes manières. Les voilà bien contrariés, ceux qui prétendaient que la jeunesse sportive était aux antipodes de la jeunesse littéraire. Alors c'est Peggy, cet attachement au sport collectif a une origine ancienne, puisqu'il était déjà membre d'une association sportive dans son lycée d'Orléans, dont il était, par ailleurs, déjà le président. Il l'évoque souvent dans sa correspondance, et il y voit un avant-goût de la vie à laquelle il aspire, cette vie d'action qui sera effectivement la sienne, en particulier dans l'affaire Dreyfus, où Peggy s'investit souvent physiquement. D'ailleurs, quand il se souvient de ce moment, dans L'Argent, 1913, un texte assez nostalgique, où Peggy se souvient de ses années orléanaises, il rappelle qu'à cette époque, on venait d'inventer le sport. Une formule que je trouve intéressante, puisqu'elle montre bien que Peggy a conscience du caractère situé, historique, de cette période de l'histoire du sport, qui est en fait le moment d'invention du sport moderne. On a une bonne image de ce Peggy sportif dans ce cliché de 1894. Donc il est à Paris cette fois-ci, c'est un cliché avec les autres pensionnaires de Sainte-Barbe, où il prépare l'internat, où il prépare l'école normale supérieure, donc Peggy est ici, hein. Alors, je trouve ce cliché intéressant parce qu'il est très différent des clichés qu'on a vus précédemment. On voit ici un Peggy dont on voit qu'il est petit, hein, ce qu'on voit moins d'habitude, et puis assez trapu, râblé, hein, avec un air un peu de Francis Blanche, je trouve, qui change de ses représentations habituelles et qui nous montre justement ce Peggy au plein de sa forme physique. Et goûtant les... Et d'ailleurs, hein, je pourrais énumérer, mais la plupart des individus qu'on voit ici font partie toute sa vie de la galaxie de Peggy. Je cite simplement celui-ci ici, Baudouin, qui est son meilleur ami, disons, d'époque, qui meurt peu de temps après et qui deviendra une sorte de double imaginaire de Peggy toute sa vie. Donc c'est son équipe, en fait, ici. C'est l'équipe de Peggy et, pour une partie, l'équipe des Cahiers de la Quinzaine. Bon, alors, je passe un peu sur un passage que je voulais regarder plus en détail, mais je ne veux pas perdre trop de temps, hein, où Peggy se souvient d'un épisode de lycée où il se découvre hérétique, c'est-à-dire où son tempérament anarchiste naît, en quelque sorte, hein, une sorte de scène primitive de sa rébellion qu'il ne le quittera pas. Et il l'associe justement à sa pratique sportive, puisqu'il se bat contre des futurs cirares, des militaires, et il est défendu par son équipe de sport. Donc avec deux sociabilités en quelque sorte qui s'affrontent, celle libertaire, saine des sportifs, contre celle qui lui déplaît à l'époque, puisqu'il est encore antimilitariste en ce temps, des futurs militaires. Bon, on va voir que cette opposition des sportifs et des militaires ne dure pas très longtemps chez Peggy, qu'ensuite ça va plutôt communiquer. Le sport, à cette époque, c'est notamment ainsi que le présente souvent Coubertin, se veut une sorte de forme moderne de l'honneur. C'est la morale du fair play qu'on connaît tous, telle que par exemple la commente Georges Vigarello dans ses ouvrages sur le sujet. Alors, où trouve-t-on ce sens de sportif de l'honneur chez Peggy ? On le trouve dans l'argent, par exemple, hein, où il associe l'honneur du sport au travail bien fait, mais on le trouve surtout dans l'argent suite, donc la suite de l'argent, où cette fois, il le lie bien à la question de la polémique et même de la guerre. Il se souvient de l'affaire Dreyfus et écrit « Tout le monde en ce temps-là était militaire et militariste. Nous formions deux ardentes armées, donc les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, également honorables au point de vue de la guerre, également honorables au point de vue du sport. Il n'y avait que les radicaux qui n'avaient point trouvé place dans ces deux immenses armées. Ils se préparaient seulement à ravager le champ de bataille, à dépouiller les blessés et les morts. » Bon, je passe sur la pique contre les radicaux, assez typique des agacements de Peggy, hein, mais pour retenir en tout cas cette égalité, hein, sur laquelle il insiste par le redoublement de l'adverbe, cette égalité qui fait le propre de l'honneur dans le sport, et puis de l'honneur dans la guerre, dont je vais dire quelques mots. Il y a, dans la polémique selon Peggy, dans la saine polémique, un respect nécessaire de l'adversaire, même dans l'affaire Dreyfus, et même contre les anti-Dreyfusards, en tout cas dans ce regard rétrospectif. Et lorsque Peggy prétend maintenir dans le présent ses idéaux de Dreyfusard, eh bien, c'est ce caractère honorable au point de vue du sport, qu'il veut garder vivace. Bon, or, cette égalité sportive, c'est la même que l'égalité chevaleresque, que l'égalité cornélienne, qui lui est chère, que l'égalité du noble jeu, dont nous avons déjà vu une occurrence. Cette égalité qui se manifeste au mieux dans le duel d'honneur ou dans la guerre, mais pas dans n'importe quelle guerre, nous allons le voir. Donc, le mot, l'expression qui permet de naviguer un peu d'une image à l'autre, c'est celle de noble jeu. On va le voir. Alors, je vous propose de regarder une série de citations un peu plus longues que j'extrais cette fois de la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne, qui est le dernier texte de Peggy, inachevé. Donc, un texte de 1914. Alors, il parle de Corneille ici. Dans ce système de pensée, la bataille passe avant la victoire et la mort, même n'est rien au prix de la correction du combat. Et la mort même, pardon, n'est rien au prix de la correction du combat. C'est un système fort connu, le plus antique, le plus étranger qu'il y ait au monde moderne. Ce n'est pas seulement le système de la loyauté, c'est le système de l'héroïsme. Et c'est le système de l'honneur. Il est tout entier ramassé dans le code du duel, à condition qu'on le prenne au sérieux. Et ce n'est point au hasard qu'un duel est la pierre d'ogive, la clé de voûte d'ogive de l'arcature du Cid. Comme ce n'est point par hasard qu'un prodigieux duel spirituel et plusieurs admirables duels de courtoisie sont les clés d'ogive de l'immense et pure architecture de Polyeucte. Dans ce système, le duel est un affrontement, une confrontation perpétuelle des valeurs. Dans le duel d'armes, chacun des deux adversaires se présente dans son exactitude et dans son plein. On retrouve l'égalité. Dans le duel de pensée, qui est aussi un duel d'armes, chacune des thèses se présente dans son exactitude et dans son plein. C'est le système de pensée de la chevalerie, et notamment de la chevalerie française. On parle souvent de la guerre comme d'un immense duel, d'un duel entre peuples, et réciproquement, on parle souvent du duel comme d'une guerre, pour ainsi dire, réduite et schématique, d'une guerre entre individus. Et là, Peggy précise, attention, qu'il faut prendre garde à une confusion entre différents types de guerres. Ceci n'est opérant qu'à propos d'une des deux races de la guerre, comme il les appelle. Il y a deux races de la guerre. L'une procède en effet du duel et l'autre n'en procède pas du tout. Il y a une race de la guerre qui est une lutte pour l'honneur et il y a une toute autre race de la guerre qui est une lutte pour la domination. La première procède du duel, elle est le duel. La deuxième ne l'est pas et n'en procède pas. Elle est même tout ce qu'il peut y avoir de plus étranger au duel, au code, à l'honneur. Donc vous voyez là déjà avec ces deux longues citations, une première convergence d'images, hein, l'honneur, le duel, la guerre, ou en tout cas un certain rapport à la guerre. Et dans toutes ces images, on trouve le même principe, une égalité qui doit l'emporter sur toute victoire éventuelle, sur toute domination. Et justement, quelques pages plus loin, la méditation de Peggy revient au sport. Cette fois, à un nouveau sport en développement à l'époque, le tennis. Par un point au tennis, ou plutôt par un coup, on peut perdre une partie. Et l'enjeu de 20 parties est le championnat du monde. Dès lors, lequel vaut le mieux ? Gagner par un point dans une partie et dans un championnat où tous les joueurs sont forts ? Ou gagner par 20 parties dans un championnat où tous les autres joueurs sont faibles ? Je passe un peu. Lequel vaut mieux ? Gagner dans une partie où tous les autres joueurs sont faibles ou perdre dans une partie où tous les joueurs sont forts ? Donc il va un cran plus loin ici. Gagner dans une partie faible ou perdre dans une partie forte. Gagner dans un jeu de bassesse ou perdre dans un noble jeu. Revoici le noble jeu. C'est-à-dire, sommes-nous chargés de gagner quand même et à n'importe quel prix ? Ou sommes-nous chargés de maintenir un certain niveau de jeu et du jeu de la guerre ? Et ainsi, un certain niveau du monde. Et non seulement de le maintenir, mais de le faire monter ou remonter tout bas que nous soyons. C'est-à-dire, sommes-nous chargés d'être des vainqueurs ou d'être des nobles ? Et puis je passe sur la suite, on retrouve encore le noble jeu, puis Corneille. Donc vous voyez, une nouvelle image qui s'ajoute aux précédentes, cette fois celle du sport, et qui converge dans l'héroïsme cornélien, qui est un peu la formule achevée pour Peggy de ce noble jeu, tel que lui-même veut l'appliquer, le pratiquer dans la polémique. Alors je passe un peu sur les innombrables métaphores militaires dont Peggy use pour illustrer sa propre démarche de journaliste et d'écrivain, mais disons que vous pouvez me faire confiance, elles sont nombreuses. Alors voici Peggy au front ici. Ce que je veux simplement dire sur ces métaphores, c'est qu'il ne faut pas oublier que Peggy, évidemment, écrit avant la guerre, puisqu'il n'est plus écrivain, il n'est pas un écrivain en guerre. Peggy est mort dans les premiers jours de la guerre, le 5 septembre 1914. Il a simplement un peu correspondu, donc le temps pour lui des métaphores militaires n'est pas celui de la guerre. Il est soit écrivain, soit lieutenant, mais jamais vraiment les deux à la fois. Alors pourquoi je dis cela ? Parce que la guerre de Peggy est en grande partie une guerre imaginaire. Et le duel, en fait, l'est souvent aussi. Ça me fait penser aux statistiques, au propos de Tard que vous citiez tout à l'heure, ce duel que Tard comparait au suicide, par exemple, qui prolifère dans les représentations moins que dans les faits. Bon, néanmoins, ces années 1900 sont une période où les duels littéraires sont assez nombreux. Alors regardons un peu ce qu'il en va comment il en va chez Peggy. Alors Peggy parle beaucoup du duel, nous l'avons vu. Il y a deux épisodes dans sa vie qui font qu'il passe près du duel. Mais ce sont toujours des duels qui relèvent en partie de l'imaginaire ou du chiquet. Alors je passe très rapidement sur le premier, qui est un épisode de jeunesse, lors de ses années à l'école normale supérieure, où un de ses très proches amis, Albert Lévy, qui est son coturne, c'est-à-dire son colocataire, est insulté par un certain Beuzard, un antiquisant, qui se moque de son nez. Et Albert Lévy est juif, bien sûr, donc l'insulte est antisémite, on échange des gifles, et Peggy demande qu'on en vienne aux armes. Alors, Lévy prend pour témoin Peggy et Albert Mathiez, leur troisième coturne, donc Mathiez qui sera bientôt un grand historien de la Révolution française. Et Mathiez et un des témoins de Beuzard se concertent pour que les pistolets soient chargés à blanc. Donc le duel a bien lieu, mais on tire à blanc, sans dommage possible. Par la suite, quand Mathiez confiera cette anecdote aux frères Tarot, parce que c'est eux qui la racontent, il dit qu'il ne saura jamais si Peggy savait ou non que le duel était une supercherie. Alors, bon. Donc premier épisode assez anecdotique. Le deuxième est plus important, survient une dizaine d'années plus tard, et est liée à la brouille avec Daniel Halévy, dont j'ai parlé. Alors Daniel Halévy, c'est un collaborateur important des Cahiers de la Quinzaine. En 1909, Peggy songeait même à lui céder la direction de la revue, à un moment où les choses allaient assez mal pour Peggy. Halévy refuse, mais cela traduit bien le climat de confiance qui régnait entre les deux hommes. Cette même année 1909, dans les Cahiers de la Quinzaine, Halévy publie un texte qui s'appelle « Apologie pour notre passé ». Apologie qui revient sur l'engagement des Dreyfusards, avec une certaine mélancolie presque pénitente. Et c'est cette mélancolie que Peggy aura du mal à supporter, et il attaquera violemment le texte d'Halévy quelques mois ensuite, dans un texte très célèbre, le plus célèbre sans doute de Peggy, qui s'appelle « Notre jeunesse », un texte de 1910. Alors, s'ensuivent, où il refuse justement, lui, cette pénitence et cette mélancolie des Dreyfusards, des anciens Dreyfusards. S'ensuivent toutes sortes d'échanges épistolaires, quelques échanges directs entre Peggy et Halévy, mais surtout des échanges indirects, avec divers intermédiaires qui font la navette. C'est pendant ces échanges que Peggy prétend qu'un duel a failli avoir lieu. Alors, je vais y revenir. Par la suite, fin 1910, on est dans une séquence assez rapide, fin 1910, Peggy publie un texte qui s'appelle « Victor-Marie Contugo », autre texte célèbre, et qui consiste, en tout cas dans sa première partie, en une longue épître à Halévy, avant de s'orienter vers des considérations plus vastes. Alors, voici la lettre qu'écrit Halévy quand il lit « Notre jeunesse ».« Mon cher Peggy, vous êtes un homme extraordinaire autant qu'un écrivain extraordinaire. Vous me confiez un cahier, nous en causons deux ans. Nous semblons être, non pas en accord de pensée, nous ne l'avons jamais cherché, mais parfaitement en confiance. Au sujet de ce cahier même, vous m'outragez, en vérité je suis un faible, un haïssable pénitent, un chien battu, mouillé. » Une série de citations. « Car je vous entends bien, c'est moi que vous jugez ainsi. Je ne vous envie pas, mon cher Peggy, d'avoir serré la main de cette Halévy-là, que pour moi je ne connais pas. Adieu, Peggy, votre Daniel Halévy. » Bon, le mot du vocabulaire du duel, c'est un mot que nous avons croisé tout à l'heure d'ailleurs, c'est le mot d'outrage, bien sûr. C'est bien la terminologie du point d'honneur, ce qui déclenche ce qui doit mener à un duel. Par la suite, Peggy demande à son ami Charles-Lucas de Pellouin de lui servir de second. Et dans Victor-Marie Contugo, Peggy toujours rapporte qu'Halévy et lui avaient choisi des témoins qu'ils avaient voulu communs, à savoir Julien Barda et Robert Dreyfus, tous deux collaborateurs des Cahiers de la Quinzaine. Donc les seconds, les témoins, c'est toujours le vocabulaire du duel. Et au début de Victor-Marie Contugo encore, Peggy commence en précisant, enfin en tâchant de distinguer l'outrage de l'offense, cet outrage de la lettre d'Halévy. La différence étant pour Peggy que l'outrage est volontaire, celui qui outrage voulait outrager, alors que l'offense peut échapper à celui qui offense. Il s'excuse d'avoir offensé Halévy et prétend ne pas l'avoir outragé. Alors voilà pour le fil anecdotique de cette petite affaire qui semble s'être bien terminée. Alors seulement, il faut apporter des nuances. Malheureusement, je suis effroyablement lent, donc je vais devoir aller vite sur ces nuances. La première chose, c'est que Halévy a toujours nié qu'il n'ait jamais été question d'un duel dans cette histoire. C'est Peggy qui a construit, semble-t-il, cette dimension de l'épisode. C'est un duel imaginaire. Deuxième chose, c'est que la brouille semble avoir conduit à une résolution, à une réconciliation, mais en réalité, il y a beaucoup de nuances à apporter à cette réconciliation. D'abord, Halévy et Peggy ne se parleront plus, en fait. Halévy ne collaborera plus au Cahier de la Quinzaine. Par ailleurs, ce texte est censé être une réparation. C'est le texte même qui permet de faire une réparation. Et Peggy avait un petit peu forcé la chose, puisque Halévy voulait que cette lettre soit publiée dans les Cahiers de la Quinzaine. Et Peggy a refusé en disant « Non, 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 je vais m'occuper d'écrire une épître à Halévy, une sorte de tribunal d'honneur, un peu à la façon dont il était question tout à l'heure, devant le public des abonnés des Cahiers de la Quinzaine. » Et cette épître à Halévy résoudra la dispute. Bon, le problème, c'est que le texte, en fait, devait s'appeler... Alors, attendez. Voilà, je saute un peu, tant pis. Ce que je voulais vous montrer, oui, c'est... Ça, c'est un duel d'écrivains de l'époque, alors que pour Peggy, un duel, c'est plutôt comme ça. Quoi. Ça, c'est une image du petit Lavis. Le texte devait s'appeler Solvitur objecta, c'est-à-dire les objections sont réfutées en termes de rhétorique théologique. Et c'est d'ailleurs resté le titre de la page de garde qu'on voit ici, mais petit à petit, le texte a dérivé, comme souvent avec Peggy, qui est un auteur très dégressif, et est devenu une longue méditation sur la littérature, sur Victor Hugo en particulier, d'où le nouveau titre Victor Marie contre Hugo, qu'on voit ici. Un autre détail, à moi compte deux mots sur la couverture, c'est un hémistiche du Cid, et c'est bien sûr une référence au plus célèbre duel de l'histoire littéraire, celui de Rodrigue et du père de Chimène. Donc à partir du duel censé se résoudre entre Alévi et Peggy, Peggy a repris le dessus, a occupé toute la place comme il en a l'habitude, et a dérivé vers autre chose que ce dont il était censé parler. Donc, je vous disais que tout à l'heure que le propre du duel pour Peggy, c'est de bien concentrer, d'incarner cette égalité dans le combat, cette égalité qui fait le fond de l'honneur, le fond de la bonne guerre, de ce que Peggy appelle la guerre juste. Cette égalité, on voit bien qu'il ne la respecte pas avec Alévi. Alévi n'a pas le droit de répondre dans les cahiers de la quinzaine et il est même éjecté du texte qui était censé porter sur lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir une symétrie comme inverse avec les moments où Peggy se plaint, lui, d'être la victime de tels procédés. Par exemple, lorsqu'il polémique avec Lavis, justement, en 1913, et il écrit « Ils sont amis de Lavis, à propos du cercle d'Ernest Lavis, ils sont amis de Lavis pour empêcher Lavis de recevoir nos coups, mais ils ne sont pas amis de Peggy pour empêcher Peggy de recevoir les coups et le gouvernement de Lavis. » Peggy aime beaucoup parler de lui à la troisième personne. C'est un duel où tous les témoins du duel, couvrent de leur corps l'un des deux adversaires. Donc un duel déséquilibré. Donc lorsque Peggy est attaqué, il se plaint de voir tout le monde ligué contre lui, d'être piégé dans un duel non pas d'homme à homme, mais de tout un groupe soudé contre un solitaire acculé. En revanche, lorsqu'il est l'attaquant, l'offenseur, il ne donne pas la parole à l'offensé et il rend à celui-ci toute réplique impossible. Il est seul sur le ring ou sur la scène. Alors tout ça, ce n'est pas le cas d'Alévi, ce n'est pas du tout un cas isolé. Je pourrais en développer plusieurs. Je passe sur le cas des communications, ces courriers fictifs de lecteurs que Peggy donnait à voir dans les premières séries des Cahiers de la Quinzaine, où il inventait des signatures, des courriers, en les mélangeant avec des vrais courriers, créant une fausse scène polémique, où là encore, il reprenait les rênes, comme metteur en scène, en quelque sorte. Pour aller à la polémique suivante, la dernière dont je parlerai, celle qu'il oppose à la revue hebdomadaire, après la publication de son premier mystère, donc c'est la première fois qu'il fait publicité de son catholicisme, il est attaqué dans cette revue catholique par un journaliste qui s'appelle François Legris. Et il répond dans Un nouveau théologien, M. Fernand Laudet. Alors je passe sur les détails. Ce qui est important, c'est que Peggy refuse de reconnaître à ce Legris toute existence. C'est pour cela qu'il appelle l'essai Fernand Laudet, M. Fernand Laudet, c'est-à-dire le nom du directeur de la revue en question. Et l'essai commence par des considérations de Peggy disant que Legris n'a pas l'air d'exister, qu'il n'en a jamais entendu parler. C'est tout à fait faux et avéré que c'est faux puisque Peggy a dédicacé plusieurs ouvrages à ce Legris et que les divers témoignages d'époque de l'entourage de Peggy nous racontent Peggy s'exclamant, ainsi que le rapport de Jules Ribis, qu'est-ce qu'il va prendre ce Legris ? Qu'est-ce qu'il va prendre ? Donc ici... Regardez par exemple, Peggy donne du côté des mœurs littéraires telles qu'il les critique souvent, par une mauvaise foi caractérisée. Et dans ce petit journal illustré amusant La vie parisienne, on trouvera cet entrefilet, Peggy Niana, qui parodie un peu cette mauvaise foi de Peggy, qui redouble en quelque sorte, puisque l'essai paraît dans une deuxième version augmentée, et où Peggy réplique à une réponse de Laudet qui dit « Mais Peggy savait très bien que ce Legris existait. » Voici ce que Peggy écrit. « J'avais fait cette grâce à M. Legris de le supprimer de lettres. J'ai peur que M. Laudet ne lui ait rendu un bien mauvais service en le réinstallant dans lettres. » Donc, supprimer de lettres son adversaire. Vous voyez qu'on est loin du Cid. et de l'égalité du duel d'honneur. Bon, je transformerai ma deuxième partie en une conclusion de quelques mots. Donc Peggy fait une théorie de la polémique. Alors, je voulais... Pourquoi je projette ça ? Parce que si Peggy fait des personnalités, un texte dont je n'ai pas parlé malheureusement, parce que je n'en ai pas eu le temps, mais Personnalité, c'est un texte de 1902 qu'écrit Peggy pour répondre à l'accusation de faire des personnalités, des attaques ad hominem, des attaques injustes, de salir tel nom dans sa revue. Et ce que Peggy répond, c'est non seulement il faut bien que je m'attaque à des individus pour m'attaquer au général, à l'universel, mais c'est aussi que s'il doit faire des personnalités, c'est parce que sa personnalité Peggy, la personnalité Peggy, comme il l'écrit lui-même, est sans cesse attaquée, on ne cesse d'essayer de l'étouffer. Et cette défense de l'attaque ad hominem, de la personnalité, elle repose sur une forme d'ontologie, en tout cas d'anthropologie de Peggy, qu'il faut bien appeler personnaliste, selon un terme d'époque, c'est-à-dire que le fond de tout, c'est la personnalité. Et la personnalité jusque dans ses pires excès. Et Peggy, ici, ce texte est intéressant parce que Peggy se moque de lui-même. Donc c'est un des nombreux textes d'apologie personnelle de Peggy, qui s'appelle « Pour moi ». Vous voyez cette note ici ? Et on voit une note, ici, une note qui dit « Encore, note de l'abonné ». Peggy sait bien que l'abonné est excédé par cette espèce de manie de la mise en scène de soi permanente et de la mise en jeu de soi dans un duel contre tous ceux qui veulent l'attaquer, qui fait le propre, selon lui, de la polémique. Alors, attendez, excusez-moi, voilà. Donc j'irai pour conclure à cette dernière citation que j'avais retenue, qui revient sur cette autre scène primitive de la polémique, du geste polémique de Peggy, de son obsession polémique, c'est sa confrontation avec Lucien R., Bloom et les autres, au moment où il est évincé de la librairie Georges Bellet qu'il dirigeait jusque-là. Et il est évincé par ce conseil à l'unanimité. Et voilà ce qu'il écrit. « Ils étaient unanimes, et qu'est-ce que cela prouve ? Esprit à peu près identique, ayant la même culture, les mêmes bonnes et les mêmes mauvaises qualités, les mêmes déformations et les mêmes alourdissements, ces cinq administrateurs étaient plus facilement unanimes entre eux que je ne suis unanime avec moi. Quand R discute avec Simian, il y a moins de profonde variété, moins de pénible et douloureuse incompatibilité que quand je discute avec moi. C'est dire qu'il y a dans leurs assemblées moins de véritables discussions que quand je m'assemble tout seul. » Et je vous remercie.
Merci, Alexandre. Bon, c'est évidemment un gros dossier que celui de Peggy, polémiste. Il y a beaucoup, puisque presque tous les textes en prose sont largement polémiques. Mais je crois que vous avez bien montré qu'il y avait la reprise de cette métaphore sportive, la métaphore chevaleresque, la métaphore militaire. Et c'est vrai que le duelliste rassemble tout ça, en vérité. On a retrouvé aussi l'opposition de l'épée et de la baïonnette, qui court depuis longtemps dans ce contexte, mais avec, curieusement, une rédemption de la baïonnette, alors que dans le choix de la guerre littéraire, dans tous les cas de guerre littéraire qu'on avait rencontrés jusqu'ici, c'était l'épée contre la baïonnette. L'épée noble contre l'épée noble qui fait l'adversaire, alors que la baïonnette fait l'ennemi. Et y compris dans les images que j'utilisais tout à l'heure, où la presse est une arme massive par opposition au combat singulier, qui est celui de l'épée. Et il semble que Peggy déplace du combat singulier. Dans les citations que vous avez montrées, il y a en somme plus de différence entre le combat singulier et le combat et la guerre, véritablement. Et Oui. Et puis alors ce thème du combat d'honneur et de l'égalité, bon là encore c'est un vieux thème. Hein. Je citais tout à l'heure le passage de l'apologie du duel de Signol, 1829. C'est cela. Hein. Donc ça le rattache vraiment à cette tradition de, qui date de la Restauration, hein, puisque il n'y a pas de duel pour les roturiers sous l'Ancien Régime. Hein. Donc c'est une tradition qui vient que du XIXe siècle et qu'on retrouve. Régulièrement des textes d'apologie du duel qui reprennent ce thème de l'honneur et de l'égalité. Et puis la référence à Corneille, qui est évidemment capitale dans tout ce texte. Tout ça, je dirais, mis à part la baïonnette, ces sortes d'éloges de la baïonnette, nous montre un pays qui fait référence au XIXe siècle, quoi, à la tradition du XIXe siècle et de l'apologie du duel tout au long du XIXe siècle, hein, et de la polémique. Oui. Et pourtant, il ne s'est jamais battu en duel.
Non.
Dans ces deux occasions que vous avez évoquées, mais c'est... En effet, s'est-on beaucoup battu en duel dans l'affaire Dreyfus? Je ne suis pas sûr, parce que c'était une guerre front contre front. Et...
Non, mais en marge de l'affaire, régulièrement, notamment dans les insultes antisémites ont souvent conduit à des...
Et ça donne lieu à des duels. C'est très collectif, l'affaire Dreyfus.
C'est vrai. Eh bien,
j'ai pas étudié.
Il faudrait regarder ça de plus près.
Comment ?
Il faudrait regarder ça de plus près. Je...
Oui.
Je ne sais pas.
Dans les polémiques du XIXe siècle, il y a des duels collectifs. Hein. Dans une provocation de journaux contre journaux, vous avez vu, quand je montrais les statistiques de l'année 1833, c'est l'année où il y a le plus de morts. C'est l'année où il y a le plus de duels, et les duels sont liés à la grossesse de la duchesse de Berry et aux polémiques entre la presse royaliste et la presse républicaine, puisque c'est la presse républicaine qui a révélé la grossesse de la duchesse de Berry, et donc ça donne lieu à beaucoup de duels pendant l'année 1833, et des duels où on se bat en grand nombre les uns contre les autres.
Ce qu'on trouve effectivement, en revanche, pendant l'affaire Dreyfus, ce sont non plus des duels, mais des pugilats collectifs.
Pugilat.
Et là, pour le coup, Peggy est souvent investi là-dedans.
Oui.
Quand il se souvient de ces années-là, il décrit deux chefs militaires. L'un, Lucien R, qui serait le stratège, et lui, le chef de ceux qui vont au combat,
oui,
des jeunes gens qui vont défendre en fait les professeurs de la Sorbonne menacés par les bandes antisémites.
Mais ça, ce sont des pugilats.
Ça, ce sont des pugilats. Oui. Avec à la canne.
La canne. Oui. La savate et la canne sont les formes populaires par opposition à l'escrime. Oui. À l'escrime, qui est la forme plus aristocratique du duel. Et puis, oui, c'est intéressant le débat avec Daniel Halévy, les frères Tarot en parlent aussi, il me semble, cet épisode. Hein,
Où
il en est au plus près du duel.
Oui. Alors, avec cette dénégation d'Halévy, dont je ne sais trop quoi penser, parce que les frères Tarot abondent dans le sens du duel également, mais
oui,
Halévy a toujours maintenu que c'était des racontars, qu'il n'en avait jamais été question. Mais comme à Lévy, il restait très pudique sur cet épisode parce qu'il a écrit un très beau livre sur Peggy où il passe en fait sur ce moment sans en parler. C'est seulement à la toute fin de sa vie qu'il en a parlé et là qu'il a dit « mais cette histoire de duel, c'est n'importe quoi ». Donc je ne sais pas à quel point il faut accorder de crédit à cette déclaration d'Alévi elle-même.
Voilà. Et alors l'affaire du duel des Normaliens, là, et donc ça c'est Mathias qui le raconte au frère Tarot.
C'est ça.
C'est ça. Donc c'est aussi chez les Tarot qu'on a.
C'est... Ouais, ouais. Et c'est Albert Lévy donc qui était engagé, donc qui était qui a fait une thèse sur Stirner et Nietzsche importante, qui a été un grand spécialiste de Nietzsche par la suite, par ailleurs. Non, et ça, c'est sur fond d'affaire Dreyfus, bien sûr.
Ce qui me frappe, mais c'est un petit peu comme dans ce qu'on avait pu dire de la chiffonnerie l'an dernier, c'est comment Peggy marque la fin de toute une... de toute une thématique non seulement le terme de personnalité mais tout ce discours sur le duel et l'égalité.
Mais à certains égards c'est même plus que la fin, comme un dernier hoquet une époque où déjà il est en léger décalage.
Oui.
Puisqu'il lit peu d'ailleurs ses contemporains, il lit plutôt Hugo et Michelet que Proust, par exemple.
Oui. C'est comme un rattachement à une culture qui est largement en train de disparaître. Bien, mais écoutez, merci pour cette belle analyse, ce beau cas.